c'est pas le même type d'univers qu'en bas. C'est moins côtier, c'est beaucoup plus plaine. On a un bord de fleuve, donc on est capable, au contraire de sur la Cape, on est capable de sortir chasser dans le territoire libre, ce qui est excessivement rare en Afrique du Sud. Et les endroits, les fermes, où est-ce qu'on chasse, les enclos, où est-ce qu'on chasse? Parce que là-bas, hein, ça, c'est des mœurs qu'il faut défaire. Là. 100% des territoires privés en Afrique du Sud sont des territoires en enclos avec des réglementations très strictes au niveau de la conservation. Ils ont la responsabilité de la conservation de ce qui est entre leurs clôtures. C'est des high fence, donc des clôtures élevées. Et par exemple, là où est-ce qu'on est, puisque le parc est excessivement grand, bien, ça nous donne la chance, lorsqu'on récolte des animaux, on va être capable de cibler des vieux mâles ou des vieilles femelles qui reproduisent plus trop. Puis généralement, ça nous fait, première des choses, une belle récolte qui est logique. Et c'est souvent, plus souvent qu'autrement, des animaux qui sont venus au monde dans la propriété. Donc, ce ne sont pas des animaux qui sont approvisionnés auprès d'encanteurs ou de fermes. Il y en a, parce qu'ils régénèrent leur génétique dans les parcs d'élevage. Mais les animaux qu'on chasse, nous, sont pour la très grande majorité nés sur place. Ça nous donne cette edge-là d'être en haut. Ce n'est pas la même expérience du tout. Puis en même temps, nous, on n'atterrit pas à Port-Élisabeth, on atterrit à Johannesburg. Et quand nos guides viennent nous chercher, c'est une partie du voyage. Ça fait partie du voyage. On fait 5 heures de Jeep. Fait qu'on fait 5 heures de Jeep au travers des petits villages, de Polokwani, etc. Fait qu'on voit autre chose que juste se faire déposer dans un lodge avec une navette de partir de l'aéroport, puis ça, c'est ce que tu vois de l'Afrique. On arrête d'un commerce, on arrête d'un boutique souvenir, on voit la réalité. Ça ajoute au trip, je te dirais.
OK. Puis c'est quoi qui t'a marqué dans ce voyage de Jeep-là, là, en Afrique, quand tu descendais vers ta réserve?
Qu'est-ce qui m'a marqué le plus, je te dirais, c'est quand on approche du nord, là, on commence à rentrer dans les villages qui sont plus en besoin, on va dire ça comme ça, les villages qui sont plus pauvres. Hein, quand tu es dans Johannesburg, c'est la capitale de l'AMG, de la BMW puis de l'Audi. Là.
Ouais.
Quand tu montes dans les villages, là tu arrives, tu as toutes des cabanes là, qui ont l'air à vouloir tomber. Puis là, tu as une cabane d'1 million. Là. L'égalité n'est pas la même ici du tout, du tout, du tout. Là. Le chef du village, là, lui, a une cabane d'1 million, 1,5 million, avec un grand terrain. Tout ce qui se chasse ou se tue sur le territoire, ça s'en va dans sa cour puis choisit quoi en faire. Les autres sont dans des petites cabanes. Dans des petites cabanes où est-ce qu'il faut que tu mettes des chaudières partout parce qu'il y a de l'eau qui rentre. C'est un mode de vie qui est complètement, complètement différent. La mentalité est complètement différente. Sinon, les paysages, c'est malade. C'est complètement, complètement débile. Tu es en plein milieu de n'importe où. À un moment donné, il t'apparaît des animaux exotiques en pleine face. Il t'apparaît un coudou. Il t'apparaît sur le terre-plein dans le milieu de l'autoroute. C'est comme tabarouette. Puis la surprise de ça chauffe à gauche là-bas.
La sécurité, de quoi ça a l'air? T'sais, pendant ces 5 heures-là là, où tu descends, est-ce que vous craignez pour votre sécurité?
Non, il y a des endroits où est-ce qu'on n'arrête pas, mais c'est clairement identifié. Il y a des petits villages au travers desquels on passe où est-ce qu'il y a une pancarte à l'entrée sur l'autoroute et il y a une pancarte à la sortie qui dit « N'arrêtez pas sous aucune circonstance pour, par exemple, les prochains 5 kilomètres. » Et le guide nous avertit à ce moment-là, on a 1, 2, 3, 4 flats, on continue. On continue parce qu'on ne sort pas l'autre bord. C'est aussi simple que ça. Mais c'est particulier parce que ces bouts de route-là, où est-ce que tu passes, souvent, ils vont avoir fait des murs sur les côtés en espèce de grosses briques de ciment. Là-bas, c'est beaucoup du ciment puis de la brique. Les clôtures des terrains sont en ciment puis en brique.
Okay.
On fait des genres de clôtures sur le bord de l'autoroute en ciment puis en brique. À un moment donné, whoop, il manque un kilomètre de clôture de briques. Là, tu tombes sur le village qui suit. Toutes les maisons sont faites avec les briques du bord de l'autoroute.
C'est juste normal.
Oh oui, c'est juste normal. Ils vont se servir là-dedans, puis bonsoir.
Ah ouais.
Oh oui. On est passé à un endroit où est-ce que les fils électriques étaient tombés, les poteaux étaient complètement tombés il y a 5 ans quand on est passé par là. Puis notre guide nous avait dit, allez voir, ils répareront même pas. Ils vont demander au gouvernement qu'ils viennent passer des nouvelles lignes, ils répareront même pas. On est passé, les fils étaient encore à terre, bien à côté au sol. C'est pas pareil, pantoute. Là. Tu parles d'un peuple qui ont acheté des avions de chasse pour ajouter à leur force militaire, puis ça a pris 4 ans avant de trouver un premier champion qui pouvait démarrer l'engin.
Ça n'a pas de bon sens. Hey, est-ce que la notion du temps est la même pour les Occidentaux que pour ces gens-là? Parce que moi, ce que je constate quand je jase avec des Africains, c'est que le temps n'est pas super important pour eux.
Non.
Nous, tu sais, une heure, c'est 60 minutes, puis il faut être dans une entreprise, il faut être très à nos affaires. Puis eux autres, c'est une heure, on travaille, mais on s'en rend pas nécessairement compte, là.
Non, la lumière est plus importante que d'autres choses. Ouais. Tu peux commencer à travailler quand il fait clair, puis t'arrêtes quand il fait plus clair. C'est aussi simple que ça, mais il faut différencier aussi. Hein. T'as deux grandes strates de population en Afrique. T'as l'Afrique noire, donc les personnes de race noire, qui ont leurs coutumes, qui ont leurs... Honnêtement, là, c'est des belles personnalités. C'est des gens qui sont quand même tripants. C'est totalement différent. C'est des paysans. Puis t'as l'Afrique blanche. L'Afrique blanche, c'est des genres de Hollandais, Angleterre, Dutchmen un peu. Hein? Faut savoir que l'Afrique du Sud a été créée par les Bushmen, qui étaient un peu des genres de Japonais slash Amsterdam mélangé d'autres sortes d'Hollandais et des Dutch. Et ça a donné une espèce de mélange de grands bonhommes de 14 pieds de haut par 14 pieds de large. Là, un de nos guides était pro-golfeur dans la PGA pendant plusieurs années. Ça donne l'idée des gabarits un peu des gars. Et c'est deux populations complètement séparées, puis ils ne se mêlent pas vraiment. Ils se mêlent pas vraiment. Non. Les Blancs ont un accès très British, très Beatles, très Paul McCartney, avec une grosse stature. Les Blancs vont accéder à, par exemple, des postes de PH, Professional Hunter, les guides, alors que les Noirs vont plus être nos trackers, qui vont suivre les tracks ou encore qui vont skinner les animaux, donc qui vont arranger les animaux. Puis, ils sont contents comme ça. Il ne faut pas voir ça comme c'est de la hiérarchie. Non, ils sont contents comme ça parce que, de toute façon, la population noire de l'Afrique du Sud ne veut pas se mêler à la population blanche puis aux coutumes de la population blanche et vice-versa. Puis, tous les deux, les deux populations ont leur pleine légitimité là-dedans. La violence est différente. Hein, on passe par Polokwani, il y a une montagne sur laquelle on érige une petite croix blanche à toutes les fois qu'il y a une ferme de blancs qui se fait égorger en Afrique. De voir cette montagne-là et la grosseur de cette montagne-là, n'importe qui, même le plus grand mâle alpha, verse une petite larme. Quand tu te rends compte combien ce qui est à perte de vue qu'il peut y avoir de petites croix blanches, là, c'est pour ça qu'on va dans le nord de l'Afrique du Sud. On est bien, on est loin, les populations locales travaillent en collaboration avec les gens avec qui on travaille nous autres. Ils sont contents de travailler avec nous autres parce qu'ils les payent bien, ils les traitent bien, puis notre viande s'en va vraiment aux locaux. On la voit partir, on voit les locaux partir avec. Et ils sont excessivement reconnaissants. Ça amène une chimie qui est totalement différente de dans d'autres parties de l'Afrique du Sud.
Hey, ton histoire de croix blanche est particulière. À chaque fois qu'il y a une ferme de gens blancs qui se font ouvrir la gorge, on met une petite croix blanche dans la montagne. C'est capoté.
Il y en a des milliers. C'est des milliers.
Oh, ouais.
C'est pas 100, là, c'est pas 50 croix blanches, c'est des milliers.
Tu sais, aux États-Unis là, puis au Canada, il y a des couples qui sont multiraciales. Tu as des couples blancs, noirs.
Et là-bas, c'est pas accepté.
C'est pas accepté?
Non, c'est mal vu. Ben, c'est, dans certaines, mettons, Johannesburg, des endroits où est-ce que c'est un petit peu plus ouvert, puis un point de vue culturel, artistique. Mais si moindrement on parle de Pretoria, d'où Elon Musk vient de Pretoria, juste en dessous de Bowery, où est-ce qu'on va? Pretoria, Polokwani, toutes ces petites villes, Mokopani, toutes ces petites villes-là, là, un blanc avec un noir qui marche un chemin, là, ça marche pas. Là. Surtout en couple, là, ça fonctionne pas. Là.
Eh bien, t'as des deux bords, ça chiale. C'est particulier. OK, fait que là, toi, t'es allé sur le continent africain pratiquer la chasse avec un groupe de lecteurs, un groupe de fans, un groupe qui te regarde dans tes émissions de télé?
Oui, bien, en fait, cinq groupes cette année. Il y a deux groupes qu'on accompagne. Donc, le premier groupe avec lequel on revient il y a deux semaines. Puis là, on repart samedi cette semaine pour partir avec la gang de filles de bois. Mais on a trois autres groupes qui y vont aussi. Pour un total d'à peu près 60 ou 64 chasseurs et accompagnateurs, parce qu'on a presque la moitié des groupes qui sont là comme accompagnateurs pour prendre la photo et etc.
Okay.
On les amène là-bas. La moitié d'entre eux autres n'avaient jamais pris l'avion de leur vie. La moitié d'entre eux autres ne parlaient pas anglais. Puis c'est justement pour ça qu'on fait ça. On négocie des tarifs pour que la majorité des gens puissent le permettre et on s'organise pour être là, pour être capable de les accompagner. On embarque dans l'avion avec eux autres à Montréal. Cette année, il y a un groupe qui était séparé du reste parce qu'il y avait un problème avec le passeport vaccinal. Kate et moi, on s'est volontairement séparés du reste. On a laissé la première partie du groupe avec les deux autres organisateurs, donc Patrick et Priscille. Et nous autres, on s'est séparés pour accompagner Jonathan et Josiane à ce moment-là. Jonathan n'avait jamais pris l'avion, puis il l'obligeait à passer par Paris. Fait qu'on s'est séparés du groupe, on s'est rebookés sur leur avion pour vraiment leur permettre, ils ne l'auraient pas fait autrement, pour leur permettre de monter là-bas puis de vivre le trip. Écoute, en revenant, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'il faut qu'ils trouvent le moyen de faire d'autres sacrifices dans leur vie parce qu'ils veulent revenir à tous les ans.
Ah, oh, ben c'est sûr, une fois que tu y as goûté, tu veux y retourner. Puis qu'est-ce que tu leur fais faire là-bas? C'est quoi les chasses que tu leur as fait faire?
Ben essentiellement, c'est les guides là-bas qui s'occupent d'eux autres, mais un petit peu au contraire de ce que les gens voient. Puis ça, il faut casser le moule direct en partant. Là. N'oubliez pas une chose, un peu comme les peuples nordiques ici au Québec relèvent beaucoup des activités de chasse et de pêche des grandes pourvoiries qui ont au nord pour leur subsistance. Toute la conservation en Afrique du Sud, les efforts de conservation reposent sur l'argent qui est amené par les chasseurs internationaux. S'il n'y a plus de chasse en Afrique, il n'y a plus d'efforts de conservation. That's it, that's all. Ensuite de ça, les populations locales, de par la façon dont ont été traités les cheptels animaliers, ont pu accès dans le bois à côté de chez eux à des animaux faciles à chasser pour se nourrir. Donc, des installations comme Eland Safari, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on fournit. Ainsi, la journée où est-ce qu'ils ont à débarrasser un grand mâle girafe parce qu'il est rendu trop agressif, et c'est arrivé quand on était là, là il y a deux mâles, il y en a un qui est mort, se sont battus dans le milieu du chemin, là, puis le mâle est tellement agressif qu'il affronte bien les animaux. Mais quand on va récolter un grand mâle girafe comme ça qui est agressif, là, c'est une tonne de viande qu'on donne à la population. Une tonne. Mais en dehors de problématiques avec des animaux comme la girafe, c'est des animaux qu'on a décidé de ne pas cibler dans nos groupes. Et je m'explique. Il y a toute une notoriété qui a été bâtie alentour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont faire quelque chose qu'on appelle les African Big Five, les cinq plus grands animaux, les Dangerous Game d'Afrique. C'est vraiment pas quelque chose qu'on veut promouvoir définitivement. On est tout à l'inverse. Les listes d'animaux qu'on présente ou qu'on autorise aux pourvoyeurs au travers de Patrick à présenter à nos accompagnateurs exclut totalement les choses comme le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros, toutes ces choses-là, on ne touche pas à ça. On se concentre beaucoup plus sur les petites, les moyennes et les grandes antilopes qui ressemblent grosso modo en termes de gabarit corporel à nos cervidés ici. Grosseur chevreuil, grosseur orignal, à l'exception de ce qu'on appelle les tiny tens, qui sont de très petits antilopes, la grosseur d'un petit chien, si on le veut. Mais encore là, on récolte des mâles matures. Souvent, les gens vont faire comme « Ah, pourquoi t'as tiré? C'est tout petit, c'est tout cute. » Ouais, mais c'est un mâle mature qui est rendu stérile, puis il protège un cheptel de 25 femelles qui ne peut plus être accouplé par les autres mâles. On retire le mâle, on repart la reproduction dans le troupeau. Mais on va se tenir vraiment là, des impalas, des bushbucks, des blessbucks, des springbucks, des oryx, l'oryx avec les grandes cornes droites, des sables, des élans, des coudous, on pourrait en nommer bien plein. Là. Évidemment, on fait le facochère aussi. Dans qu'est-ce qui est un peu moins cervidé, si on le veut, là, on fait le facochère aussi. On fait de la déprédation. Il y a définitivement des problèmes de singes présentement dans cette partie-là de l'Afrique du Sud. Les singes ravagent les champs de maïs au complet, arrachent complètement les toitures et les garnitures des maisons aux alentours, des villageois, donc ils ne se ramassent plus de toiture. La toiture est dans le champ plus loin. Sont dangereux avec les animaux de basse-cour, les animaux d'élevage, les enfants. Donc, on les aide dans la déprédation avec le chacal, okay, entre autres, avec le babouin, avec le velvet monkey. Ça ressemble un peu à ça. Je te dirais, entre autres, on a des caches d'installer. On va reparticiper à ça la semaine prochaine pour la hyène brune. La hyène brune qui est un gros prédateur là-bas aussi. Par contre, tu vois, il y a une des deux caches sur lesquelles il se pointe un léopard présentement de nuit. Ben, on laisse ça de côté, on le laisse tranquille. Okay. De toute façon, ça ne te tente pas d'aller serrer la pince d'un léopard.
Non, c'est ça. Donc, c'est une chasse qui est extrêmement responsable, contrairement à tous les gens qui se disent amis des animaux, là, qui disent « mais là, ça n'a pas de bon sens d'aller faire ça ». Non, vous autres, vous le faites de façon responsable avec les gens qui sont en place.
Qui ont un plan de conservation, exact, en place.
Okay.
Hein, ils vont réacheminer des nouveaux animaux pour protéger le patrimoine génétique. Ils vont réintroduire de nouvelles génétiques pour empêcher la consanguinité, pour empêcher les tares génétiques, mais en dehors de ça, ils n'iront pas, et là, je parle pour cette pourvoirie-là, les autres, je ne peux pas en parler, je peux aller. Ils n'iront pas acheter, il y a un groupe, Yannick s'en va avec cinq de ses chums, ils ne débarqueront pas à l'encan pour acheter les animaux, pour faire chasser ces chums-là, puis quand ils partent, on rentre d'autres animaux. L'endroit où est-ce qu'on va, il y a de la conservation qui sait, il y a beaucoup de reproduction sur place, le parc d'Impala, je ne sais pas si c'est, ben, le parc, dans le parc, là, des Impala, je ne sais pas si c'est 1500 ou 2000 impalas qui se promènent, là, mais c'est hallucinant comme s'il y en a.
Ça doit être de toute beauté à voir. Là.
Levé de soleil, Yannick, tu verses ta première larme. Après ça...
Attends un peu, monsieur. Monsieur, je suis un homme. Un homme, ça pleure pas.
Tu vas casser. Levé de soleil, tu lèves ta première larme. Ouais. Première lueur du soleil, les oiseaux vont se mettre à chanter. Tu vas être entré dans l'émerveillement. Après ça, les odeurs vont suivre parce que les odeurs avec l'air qui reprend, le vent qui reprend, quand il y en a, quand on est chanceux, tu as les odeurs qui viennent se mélanger à ça. Avant même de voir ton premier animal en Afrique du Sud, ce qui ne sera pas trop long parce que bien souvent, tu te lèves puis l'autre bord de la clôture, l'autre bord de ta porte patio, il y en a en train de manger de l'herbe. Là. Juste le paysage, les gens, le calme des gens là-bas, c'est... Ils ont des grosses voix, ils te parlent de même. J'ai pas une grosse voix, moi, là, comparé aux autres là-bas. Là. Mais vraiment, vraiment pas. Là. Good morning, Martin. Ça ressemble à ça. What you want to do today?
C'est guttural, là.
Ah, vraiment, vraiment. Mais ça, c'est... Puis je remarquais, entre autres, les femmes. Hein, les femmes, puis ça, là, c'est indéniable. Là. T'as beau rechercher dans ta vie un pourvoyeur de ce que tu voudras, de fun, de sexe, d'argent, de sécurité, elles ont toutes quelque chose en commun. Le point de vue paternel les assoit très rapidement. Et tu vois les femmes là-bas, quand les guides se pointent au départ, ils ont une certaine appréhension. Puis là, les guides se pointent, puis avec, je sais pas, le ce qu'ils projettent comme aura, puis leur voix, tu vois les femmes tout de suite s'apaiser de la minute que les guides se mettent à parler. Fait comme, ils se sentent immédiatement en sécurité. Fait que tout ça, avant même d'aller dans le bois voir des animaux, c'est comme, oh! Puis là, ils ont le malheur de te servir la première assiette du voyage. Là, les restaurants que tu connais, oublie ça. Non? J'ai vu des gars arriver jusqu'à 5 coupes de viande différentes dans leur assiette, filets, faux filets de trucs qui ont été chassés la veille ou l'avant-veille, etc. On mange, c'est bon, ça n'a pas de bon sens, on manque pas de nourriture. Ben au contraire, tu vas prendre 10 livres là-bas. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils mangent énormément de protéines, mais pas de féculents. Fait qu'il faut que tu te rationnes à boire pas mal d'eau, autrement, tu vas garder tout en dedans.
C'est bien dit, c'est bien dit.
Ah oui, hey, ben oui,
on fait des réserves. T'as dit tantôt qu'il y avait des bagarres de girafes. Là. Tu t'attendais... Quand t'as vu ta première bagarre de girafes, tu t'attendais-tu à ça? Parce que moi, quand je l'ai vu dans un documentaire, je me suis dit, ben voyons, toi, ça se bat comme ça.
Moi, la première chose que j'ai vue d'une girafe, c'est une girafe qui a swingé... Vous savez, c'est quoi un gnou? Un blue wildebeest, un gnou. Une girafe qui est debout... Le pauvre gnou, il arrive sur le bord de l'eau pour boire. La girafe le regarde, puis « Checker mon swing de golf! » Paf!
Avec sa tête.
Ouais. Ouvert de la hanche à l'épaule, le Blue Wildebeest. J'ai pas vu de mes yeux, deux grands mâles girafes se battre ensemble. Par contre, il y a 3 semaines, il y avait 2 bébés girafes qui s'amusaient. Un peu comme, tu sais, des tigres vont jouer ensemble comme 2 chats.
Ouais.
Ben, j'ai été émerveillé de voir que les bébés girafes s'amusent à jouer ensemble comme si c'était des adultes qui se battaient.
Puis ils se frappent le cou, là.
Mais ils vont juste à côté. Ils frappent pas fort, puis ils frappent dans le côté, mais ils vont juste à côté. Là, un moment donné, la mère débarque de la forêt, puis elle leur lâche un genre de petit whack à stasser les enfants, puis on rentre dans le bois, là. Mais on est resté facilement... C'est le fun parce que cette année, mon réalisateur, Nicolas Thivierge, était avec nous autres, avec sa conjointe Sophie, qui prenait de la photo. On est resté une bonne demi-heure, rien qu'à les regarder. On se foutait, là. Il y avait des affaires à chasser en arrière, mais on s'en foutait complètement. On regardait juste les bébés girafes qui s'amusaient. Je dis, quand est-ce que tu vas revoir ça? Là? Oublie là ta chasse, jamais, on reste ici. Là.
Non, c'est ça. Puis là, vous êtes parti avec combien d'auditeurs?
20.
20 auditeurs?
Oui.
Puis t'en fais 5 par année, c'est ça?
Oui, en grosso modo, on en fait 5 par année. On avait ciblé 4, mais écoute, si on écoute les gens, on ouvrirait 10, mais on peut pas. Là. On peut pas
ça peut coûter combien? Un gars comme moi qui va tout seul, ça peut me coûter combien aller là?
Toi, puisque tu vas venir prendre la photo, c'est encore plus intéressant parce que... Puis là, écoute, avion, pourboire, nourriture, boisson. Tu vas au dépanneur, tu essaies d'acheter des chips et d'alcool, ils vont payer pour toi. Linge lavé à tous les jours, cabine, air climatisé, privé, tout inclus, là, 3200 Canadiens.
Puis c'est 2 semaines?
Non, tu es parti pendant une semaine là-bas. On est 7 jours sur le camp. Tu as ton guide qui est inclus là-dedans. C'est un guide par 2 chasseurs plus un observateur. Donc, à partir de là, tu as accès au parc à la grandeur, tu te promènes à grandeur de journée, tu es nourri comme un cochon pour 3200 Canadiens.
Mais c'est donc bien pas cher.
Mais non. Les gens qui viennent pour avoir le droit de chasse, parce qu'on rajoute le droit de chasse, puis la location de la carabine, puis les munitions là-bas, parce qu'on ne veut pas amener de carabine puis de munitions, tu sais.
C'est
plus en plus compliqué. Ouais. C'est 4200. Puis les gars là-bas choisissent leurs animaux un peu à la carte, là, dépendamment de ce qu'il y a. Mais souvent, ça se passe sur le terrain. Ils se promènent, ils regardent les animaux, puis là, le guide. À cause de la nature de Highland Safari, comment est-ce qu'ils sont faits? Oh, regarde là-bas, ça, c'est un vieux mâle. On ne l'a pas vu, ça fait 2 semaines, mais ce mâle-là serait à retirer. OK, c'est combien? C'est temps. Parfait, boum. On le rentre, on l'arrange, on pend la viande. Le lendemain ou le surlendemain, on en mange une bonne partie, on donne le reste aux villageois. Et le client ramène ici, au Québec, le crâne, les cornes et la peau pour faire finir son trophée par un taxidermiste. Donc, c'est une chasse avec laquelle tu reviens qu'avec un trophée, mais tu as participé aux efforts collectifs pour nourrir les populations qui ont pu accès à ces animaux-là là-bas, puis tu n'as mangé. Donc, c'est pas... Tu sais, il y en a beaucoup qui vont faire comme « Moi, tu es ce que je mange pas. » Ouais, ça dépend comment tu le vois. Là. Je le disais tantôt, je le répète, retire les chasseurs internationaux de l'Afrique du Sud, il n'y a plus de conservation.
Hey, mais 3 200, moi, ce serait un safari photo, bien entendu, là, mais 3 200, c'est vraiment pas cher. Parce que Cancun, là, t'es autour de ça, là, 2 800, 2 900 dans un tout inclus, mais tu vois jamais, tu vois pas 2% de ce que tu peux voir là-bas. Là.
Puis tu manges pas ce qu'on mange. C'est terrible, non, c'est je te dis. Là-bas, il y a des chasseurs invétérés cette année, puis l'autre année, la dernière fois qu'on était là avant la COVID, à qui on a demandé c'est quoi ton plus beau souvenir? La bouffe. Oublie la chasse, la bouffe. Hey, cette année, là, écoute bien, là, on est. Ben, puis, by the way, des accompagnateurs cette année, c'était presque la moitié du groupe qui n'était qu'accompagnateurs. Ils étaient là pour triper avec nous autres, prendre la photo. Là. Ils n'ont jamais chassé de leur vie. Puis, des accompagnateurs de l'année passée, cette année, ces accompagnateurs-là étaient rendus chasseurs. Parce que ce n'est pas les mêmes règlements. Tu n'as pas besoin d'avoir ton permis de chasse ou quoi que ce soit pour chasser en Afrique. Alors, des accompagnateurs de l'année passée sont revenus cette année en se payant le permis de chasse pour venir récolter un animal, participer, donner la viande à la population, et etc. On rentre au lodge un soir. On parle de bouffe. On rentre au lodge un soir. Généralement, on va à la cabane où est-ce que les animaux arrivent le soir pour voir qui a récolté quoi. Puis on va aller apporter la bouffe au village. Et les guides nous disent, allez vous chercher des jackets, revenez nous rejoindre au pick-up. Non, ils doivent avoir trouvé de quoi qu'ils veulent nous montrer pour nous faire triper. Alors, on va chercher nos jackets, on revient dans le pick-up, on a toute faim, mais comme je sais pas, ça sera pas trop long. Et on roule dans la brousse, puis on roule dans la brousse, puis on voit les lumières des autres pick-up en avant qui s'en vont dans la brousse, il fait noir, là, noir, noir, noir. Et il y a un halo de lumière qui lève dans le fin fond de la brousse, je veux-tu même dire, ils ont trouvé une mine de lumière. On arrive sur place, il y a un grand, grand rond, peut-être de, je dirais, 80 mètres par 80 mètres, avec des feux tout le tour, les pick-up parkés tout le tour, un énorme feu dans le milieu de peut-être 8 pieds par 8 pieds avec un grill sur le dessus, des tables de gala avec les verres à vin dessus. Ils ont converti la boîte d'un pick-up en bar. Puis là, ils nous ont fait vivre une expérience parce qu'on a soupé en formule gala au beau milieu de la brousse. Écoute, la voie lactée au-dessus de notre tête, on aurait pu toucher avec notre doigt, t'entendre les chacals tout le tour, t'entendre les zèbres qui font comme japper un peu, t'entendre la faune alentour qui est en train de prendre place pour la nuit. Je ne l'avais jamais vécu avec eux autres dans le passé. C'est une tradition familiale qu'ils faisaient régulièrement lors de leur chasse familiale, eux autres qui nous ont fait vivre cette année. Juste ça, là, c'est un moment-là. Là. Écoute, il s'est même créé un couple.
Hein?
Oui, il s'est même créé. Je les nommerai pas parce que, écoute, je vais les laisser aller là-dessus, là. Mais il s'est même. On a eu une confirmation justement ce matin on a un groupe Messenger, groupe VIP Afrique, là. Et il s'est même créé un couple qui la lueur a pris ce soir-là sous la voie lactée, en plein milieu de la brousse avec les chacals qui hurlent, avec un petit verre de vin ou de rum and coke dans les mains, avec nos guides qui sont là puis qui nous servent des drinks puis qui racontent des histoires de chasse. Abracadabrante que le caltor. Puis...
Ouais, c'est incroyable ça. Maman, papa, vous êtes connus comment? On s'est connus en Afrique lors de Safari plutôt que sur Tinder. Tu sais, c'est pas mal plus vendeur auprès de ton enfant. Ah ouais, OK. Puis pour les gens qui seraient intéressés à aller avec ce groupe-là en Afrique avec toi là, comme accompagnateur, vous en repartez quand?
Ouais. Hey, là, on part samedi, mais ça, c'est plein, plein, plein. Il n'y a plus de place là-dedans.
Mais là, tu pars samedi avec une gang de filles.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas faire là, toi?
Je sais.
T'as pas d'affaires, là. Tu le mérites pas. Moi, je pense que je le mérite.
Les autres, on tourne quand même là-bas.
Ah, OK.
C'est que la gang de filles de bois sont là. Il y a Patrick, qui est notre organisateur, si tu veux, qui est un grand chum à moi, qui va s'occuper de la gang de filles. On s'en occupe, nous autres aussi, rendu sur le loge. Mais lui, il jump d'un pick-up à l'autre pour aller chasser avec eux autres, avec les guides. Kate et moi, on chasse de notre côté pour compléter les émissions qu'on a tournées là-bas. On va aller faire de la chasse dans le territoire libre sur le long du Limpopo, entre autres. Moi, de mon côté, j'ai un petit challenge aussi au niveau des impalas. On appelle compléter ce qu'on appelle le Pala Slam, comme le tour du chapeau des impalas, parce qu'il y a quatre variations de couleurs d'impala qui existent. Puis c'est des cheptels qui se reproduisent énormément, donc on en retirer de toute façon. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Oui, on va être avec une gang de filles sur le camp. Là, les prochains groupes, c'est l'an prochain. Le groupe VIP l'an prochain, il est du 4 au 12 mai, parce que je choisis toujours les semaines où est-ce que c'est la Black Moon qu'on appelle. Il n'y a pas de lune la nuit, donc les animaux ne se promènent pas de nuit parce qu'il n'y a pas de lune pour illuminer leur bâtonnet lumineux. Donc, ça fait qu'on a beaucoup plus d'activités animalières dans le jour, fait qu'on en voit beaucoup plus. 4 au 12 mai 2024, ça va être plein bientôt. Là. C'est pour ça qu'on a 4 autres groupes en 2024, dont 2 au total. Là. Notre groupe VIP, puis un autre groupe que nous, on va accompagner. On ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'on a les enfants à la maison, toute la patente.
Ouais,
mais les précises sont là-bas avec les 3 autres groupes là, qui vont avoir autant de plaisir que nous autres. Et ça, là, écrivez-moi par Facebook ou écrivez à Kate. Si vous n'êtes pas sûr, je ne parle pas anglais, je n'ai jamais sorti, je n'ai pas de passeport vaccinal, je ne sais pas c'est quoi les vaccins, etc. Là. Faites pas d'anxiété avec ça. Là. Appelez-nous. Là. C'est vraiment, vraiment simple.
Fait que Martin Bourget par Messenger, c'est ça?
Oui, sur Messenger. Ou Kate Nadeau-Mercier sur Messenger directement. C'est la meilleure façon. On va vous renseigner. On va vous envoyer des photos de ce qu'on a fait comme trip dans les années passées. Et c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Cette année, beaucoup de monde n'avait jamais pris l'avion. Puis reviennent de là, le cœur rempli de souvenirs. Oubliez la chasse, en dehors de la chasse. On se ramasse une gang de Québécois sur le tour du feu dans le lodge. C'est un lodge 5 étoiles. On est chanceux de l'avoir à ce prix-là. Vous avez chacun votre chalet privé, air climatisé, avec un vrai beau grand lit, salle de bain complète. On est sur l'or, là, littéralement. On est tout à l'entour du feu le soir, puis on se raconte des peurs, puis on prend un petit verre. Martin fait des drinks dans le bar. Puis c'est toute une expérience. Puis honnêtement, c'est l'opportunité d'y aller justement pendant qu'il y a une gang de Québécois qui sont là. Puis on choisit un peu notre monde. Fait que vous ne vous ramasserez pas avec des gens problématiques non plus là-bas. On fait une espèce de présélection. Si vous entendez très rapidement, ah non, il n'y a plus place, c'est peut-être parce qu'on est allé voir votre profil Facebook et que ça ne nous tentait pas.
J'adore. Des gens qui disent, tabarouette, tu parles avec Martin Bourget de Loisirs Chasse-Pêche. Allez-vous parler du C21?
Aventure maintenant.
Aventure Chasse-Pêche. Je me mêle tout le temps, mais j'étais un ancien, moi.
Ouais, c'est correct, ça.
Allez-vous parler de la C21? On va certainement parler de la C21. On a reçu Guy Morin hier. On a plus parlé des armes à feu en général, mais là, on a la chance d'avoir un gars de chasse et de pêche, un passionné. Fait qu'on va faire ça. Puis à la fin, on va faire un résumé pour ce qui est de la C21. Et où est-ce qu'on en est rendu? Chasse-pêche, là, en fin de semaine, j'ai passé par la Beauce, là, j'ai vu qu'il commençait à y avoir des chasseurs. Là. C'est quoi qui chasse présentement?
Le dindon sauvage! La grosse dinde méchante!
Il y en a-tu? Le cheptel a-tu grandi?
Explosé.
Oui, il a explosé.
On dit explosé. C'est incroyable. L'année passée, on était en train de se rendre à Pourvoirie du lac à l'Ours Blanc, rendu à hauteur de Parent. Ça, c'est bien, bien, bien loin, là, des heures de route de Garnotte, plus loin que la Tuque. On est tombé sur une dinde. Le cheptel de dindon sauvage, il a explosé. Okay. Et c'est pour ça qu'on est rendu à deux dindons qu'on a le droit de récolter au printemps. Et il y a une saison automnale maintenant où est-ce qu'on peut prendre mâle et femelle.
Okay. Mais au départ, là, ça part de où, là, l'introduction du dindon sauvage?
Bien, première des choses, on va utiliser le mot réintroduction parce que c'est un oiseau qui était très présent en sol québécois, comme le wapiti l'était aussi. Okay. Hein, il y a longtemps de ça, avant que le chevreuil et l'orignal les montent au nord, puis le caribou aussi par la suite. Donc, c'était très présent, mais c'est une grosse poule qui était en très grande quantité, puis les Premières Nations avaient développé des skills pour aller les chercher, puis tu as deux grosses poitrines à manger là-dessus, des grosses cuisses. Là. Donc, on a un peu repoussé le dindon sauvage vers le sud pour ce qui en restait et on l'a réintroduit. Au travers de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, ils ont été capturés des dindons sauvages en Ontario. Puis dans le secteur de Saint-Anicet-Valleyfield, puis la pêche en haut en Outaouais, ils ont relibéré avec des cages des dindons sauvages et puis ça s'est mis à repopuler, ça a donné place à cette belle chasse-là. Là, par contre, on commence à trouver qu'il n'y en a pas mal.
OK, mais Valleyfield, là, excuse-moi, mais c'est pas proche d'ici, là?
Non, Valleyfield, non, pas du tout. Regarde La Pêche. Tape La Pêche, la municipalité de La Pêche. Un bout, là.
Municipalité de La Pêche. Pêche. Oh boy.
Ben, c'est ça. C'est ça. C'est là qu'ils ont été réintroduits. Dans le secteur de Valleyfield, plus particulièrement Saint-Anicet et le secteur de La Pêche, les bénévoles de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs et la permanence ont mis un gros programme en place pour le réintroduire. Alors, en capturant en Ontario? Et le réintroduire au Québec, dans un territoire où est-ce qu'on savait qu'il pouvait prospérer, qu'il avait la capacité de soutien du milieu, puisque cet oiseau-là avait déjà vécu ici. Donc, ce n'était pas une espèce non endémique qu'on venait mettre en sol québécois qui allait se poser la question « comment je vais survivre? ». La preuve en est que ça allait exploser.
C'est en quelle année, ça, qu'on les a réintroduits?
Oh mon Dieu! Écoute, c'est-tu en 2013,
mais ça fait pas si longtemps. Hey, il y a des cheptels en Beauce, Martin.
Je l'échappe. C'est-tu 2009 ou 2013? Là, il faudrait que je fasse une vérification.
Mais si tu me dis, Yann, ils ont introduit ça il y a 40 ans, genre, OK, c'est beau, je comprends que ça soit rendu en quantité ici, mais tu me dis que ça fait pas si longtemps que ça, puis il y a des gros cheptels en Beauce, là.
Oui. Énorme. Ça passe bord en bord de l'autoroute. Quand t'arrives à Saint-Georges en haut, c'est pas rare qu'avant le rond-point, il y en a qui passent carrément en face. Hein. Ouais. Ils volent au-dessus de l'autoroute.
Puis ça fait
Bricqueville.
Mais ça fait une trotte, ça?
Oh oui. Ça se promène en tabarouette. L'année passée, sur notre terrain ici, là, il y en a une soixantaine qui ont passé la fin de l'hiver sur le terrain ici, puis après ça, ils ont pris le bord du champ du cultivateur quand ça commençait à dégeler.
Ouais.
Il y en a beaucoup. Là. C'est une belle chasse, mais détrompez-vous, c'est pas une chasse qui est si facile. Les secteurs où est-ce que le dindon vient d'entrer, puis qui n'est pas trop, puis oui, le terme c'est le bon, qui n'est pas trop éduqué, il est encore facile. On cale un petit peu, il s'en vient, boum, bonsoir.
Okay.
Les secteurs où est-ce qu'ils chassent depuis un petit bout de temps, quand ça fait deux, trois fois que ça se fait sciller les oreilles par des plombs, qu'ils se font prendre dans des guet-apens ou qu'ils voient que Gustave, après le boum, il ne répond plus à rien, ils s'éduquent. Ils deviennent beaucoup plus durs à amadouer puis à faire descendre sur le territoire pour qu'ils viennent nous rejoindre. Nous autres, la semaine passée, on a chassé vendredi avec Samuel Lheureux dans le secteur de l'Estrie. Samuel, c'est un jeune de 20 ans. J'en parle parce que c'est de la relève. On parle souvent de la relève à la chasse, mais lui, c'est un guide de la relève. 20 ans, il a décidé de dédier une partie de sa carrière à amener des gens chasser, leur faire découvrir ça. Samuel nous amène le matin, on se lève à 3h du matin, on s'en va dans le bois, on se ramasse avec, là je vais vous donner des petits termes qu'on va expliquer, là, les juvéniles on appelle ça des Jake, les mâles matures on appelle ça des Tom. On se ramasse avec 9 Jake, donc 9 mâles juvéniles, 4 grands mâles matures, puis une dizaine ou une vingtaine de femelles réparties en avant de nous autres sur la terre du cultivateur. C'était hallucinant. On a récolté un beau Tom. Puis dans la même journée, il a refait récolter deux autres oiseaux là, avant l'heure du midi, parce que la chasse arrête à midi, au même endroit où est-ce qu'on était, là, juste en collant avec le diaphragme. Là. C'est une belle chasse, mais pas si simple que ça. On va se souvenir que le taux de récolte, le taux de réussite au dindon, c'est dans les alentours de 30 %. 30-32 %, là, ça joue là-dedans tous les années. Pas plus que ça. Là. C'est comme aller chercher un boc chevreuil.
C'est 3 chasses sur 10 qui sont positives.
Exactement. Exactement.
OK. Puis on me dit que c'est un animal qui est extrêmement intelligent puis extrêmement méchant aussi.
Intelligent, je suis pas sûr.
Non?
On pourra en parler. Ben écoute, on a tiré trois coups de feu sur le spot où est-ce qu'on était. Deux coups de feu, excuse-moi, sur le spot où est-ce qu'on était, total. Et puis à toutes les fois, les dindons rentraient dedans. Ils revenaient. Et un qui est tombé, là, ils partent. Tu recales un peu, ils reviennent. Boum, un autre. Ça se passe pas de même partout, là. Ça, là, je dirais pas intelligence. Craintif.
OK, craintif.
Craintif. Ça peut percevoir un gilet bleu comme ce que tu as sur le dos aujourd'hui à 1 km. 1 km, il te voit. Ça a une audition incroyable. Par contre, ça n'a pas de nez. Ça sent presque rien. Là. On faisait des farces à un moment donné, on va mettre de l'odeur de petits fruits là, pour niaiser le monde. Ben, ça sent rien. Mais ça a une vue perçante, ça a une ouïe perçante et ça ne se laisse pas berner. Et oui, ça va affronter. On a eu des histoires encore la semaine passée, un monsieur qui sort sur son terrain parce que les grosses dindelettes, ils les aiment pas, puis finalement, il rentre à la course, puis il rentre en pleine face dans la porte patio parce qu'il y a un mort.
Je l'ai pas vu, ça. Ah ouais?
Une fois que tu l'as déplumé, puis que tu as sorti une fois les poitrines d'un dindon, tu te rends compte que tu aurais juste eu besoin de revirer de bord, puis de partir à la course après, puis c'est probablement lui qui aurait eu peur pour sa vie. Là.
Ouais.
Mais ça peut être impressionnant parce que ça affronte, ça a des argots, puis ça veut. Là. Ça veut définitivement.
Tu l'as-tu mis, la vidéo, tu l'as-tu mis sur Aventure Chasse-Pêche?
Le gars qui s'est affronté par un dindon?
Oui, oui.
Non, j'ai pas. Je l'ai vu sur les internets, mais je l'ai pas partagé.
Ah, faut que tu partages ça, ça va te donner beaucoup de reach. Hey, souviens-toi de la dame qui s'était fait attaquer, là, le dindon qui était rentré dans son salon. Elle a tout brisé mon couch! J'avais l'impression qu'elle me parlait là, de Jason dans Vendredi 13. Là.
moi, ce qui m'a fait capoter, c'est-tu l'année passée? Une connaissance. Hey, j'ai mangé un dindon en plein windshield. Là, je m'en vais chez le garagiste faire remplacer mon windshield, puis la tête entre les deux pattes, il va me prendre pour une nounoune, mais que j'y dise que c'est un dindon qui a défoncé mon châssis. J'arrive chez le garagiste, il regarde le châssis. C'est passé là. Une dinde? Une quoi? Une dinde? Une dinde, madame? Oui. Ah oui, c'est correct. C'est normal. Comment c'est régulier? Vous n'avez pas idée combien de windshield défoncés qu'on pogne ici avec des dindons qui sont passés bord en bord. Ben voyons donc, toi. Alors, c'est, quand ça va le bord en bord de l'autoroute, là, c'est pas un pinson, cette histoire-là. Là.
C'est gros en sacrifice.
Hétérodactyle.
Ouais. Puis qu'est-ce qui fait qu'il s'intéresse tant aux abords des autoroutes? Moi, je t'en avais parlé là, quand tu venais dans mon ancienne vie radio.
Oui.
Je voyais toujours les deux mêmes dindes sur le bord de la 73, toujours aux mêmes heures, puis ils étaient tout le temps à la même place. Qu'est-ce qui les attire tant?
Deux grandes choses.
C'est quoi?
Première des choses, c'est un des premiers endroits qui dégèle où est-ce qu'il y a des jeunes pousses qui commencent à émerger. Deuxième des choses, c'est bourré de sel. C'est bourré de minéraux. Okay. Donc, il va aller chercher définitivement celle de délaissage, il va l'attirer. Là, on a déjà vu des orignaux lécher des côtés de pick-up plein de sel. Ces animaux-là vont aller, si moindrement, ils sont dans un milieu, surtout quand tu es dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de tourbières. Je m'explique grossièrement. Des milieux où est-ce qu'il y a beaucoup de tourbières, c'est des milieux qui sont acides, des milieux d'acide humique. Il n'y a pas beaucoup de minéraux. Ce n'est pas des milieux qui sont alcalins, donc très calcaires. Puis des endroits comme où est-ce que tu me parles, ben il y a beaucoup de tourbières alentour. La propension en minéraux dans leur environnement n'est pas énormément élevée. Dès qu'ils voient une opportunité comme ça de minéraux pour aller combler une carence que leur environnement ont, ils sautent direct dedans, fait ils sont sur le bord des chemins. Là.
OK. Puis là, tu parlais que c'était la chasse aux dindons sauvages. D'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, c'est un beau gros dindon sauvage qui est là. C'est-tu ça?
Ah non, c'est moi, ça.
Non, c'est un dindon sauvage. Je dis beau gros, là, mais quand tu regardes le visage, ça a l'air agressif sur un méchant.
Oh oui. Ben, c'est la photo de la page couverture du magazine qui est en cours. C'est Christina Sauvageau qui a pris cette photo-là. Christina, qui est une de nos vedettes émergentes là, de la relève il y a longtemps. C'est plus de la relève, là. C'est une Christie professionnelle du tir à l'arc et de la photo. Là, ouais. C'est de toute beauté. Mais oui, quand tu regardes la tête de ça, ça. Bon, on peut-tu te dire que ça ressemble à un scrotum, mais rouge?
C'est quoi? Je suis en train de le regarder, je me suis dit, c'est approprié de dire que ça a l'air de deux couilles. Alors, je le dirai pas, je vais juste le penser. Mais toi, tu t'en vas dire ça. OK. Ben oui. Les gars en Beauce là, que j'ai vu chasser en fin de semaine, là, ils font comment pour savoir qu'il y a présence de dindons sauvages sur le territoire?
Prospection la veille au soir. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que la veille au soir, on va se promener en voiture pour regarder dans les champs où est-ce que sont les dindons. Et les dindons, la minute que le soleil commence à se coucher, ils vont aller se percher. Ils vont choisir souvent des pins blancs, des grands merisiers, des trucs comme ça. On va suivre un peu, on va regarder où est-ce qu'ils s'en vont. On va aller coucher nos dindons. On dit aller coucher nos dindons. On reste sur la route, on regarde avec les jumelles. Ben, si tu rentres dans le champ, tu viens scraper ta chasse. Et on regarde où est-ce qu'ils montent dans les arbres. Là, tu t'en vas cogner à la porte du cultivateur. Bonjour, moi je chasse. Là, tu vas te faire répondre, ouais, les maudits dindes, ils ont tout ouvert mes ballots de paille dans le fond, ça me coûte une fortune. Bon, ben, on en a récolté 2-3, ça te va. Hey, vas-y, mon ami. Fait que le lendemain matin, 3 heures, t'es debout. 1 heure, tu sais, présentement, je pense qu'on peut commencer à chasser dans le coin de 5h15, 5h20. Là. Un bon 30-45 minutes avant ça, là, moi, je suis déjà rentré sur mon spot, installé, je fais plus de bruit, je sais où est-ce qu'ils sont perchés, j'attends qu'ils descendent. Au matin, t'as l'impression que c'est un arbre qui s'écroule dans la forêt. C'est les battements des ailes du dindon qui se ralentit dans sa descente.
OK.
Je te dis, c'est impressionnant. Là, ils descendent au sol, puis ils vont commencer à faire le yelp, un genre de... Puis ils vont picosser, tu vas avoir les premiers gobleurs, là, vraiment le son de la dinde que vous connaissez. Et là, à partir de là, ils vont commencer à vraiment verbaliser entre eux autres. On va commencer à caler avec des petits, petits calls pour les intéresser à s'en venir vers nous autres. Puis nous autres, on a mis des fausses dindes en avant nous autres, hein, généralement. On essaie de mettre le plus de femelles possible. On s'est rendu compte que les gros mâles, c'est des fois, c'est un petit peu intimidant. Fait qu'on met des femelles en avant nous autres. À un moment donné, ils finissent par débarquer, par venir voir c'est quoi ces femelles-là qui sont là-bas et qui ont de l'air à manger. Donc, il doit y avoir de quoi de très bon à manger par là. Là, ben, boum, c'est nous autres qui mangeons le dindon.
OK. Wow. OK. Là, actuellement, les lacs sont pas tous calés, là.
Non. Il y en a. J'ai eu des textos de certains utilisateurs que les grands vents ont aidé sur certains territoires à faire caler les premiers lacs. Les premières pêches en ruisseau sont faites. On a vu beaucoup de photos là, de pêcheurs à la mouche qui ont été prélevés de la truite là, dans certaines parties du Québec, dans des ruisseaux, des petites rivières qui se sont calmées un peu. Là. On s'entend que cette semaine, c'était moins le cas. C'était un petit peu plus agité. Là. Mais oui, les lacs commencent à caler tranquillement pas vite. On espère dans les prochaines semaines avoir accès à nos premiers lacs, que le bouchon de glace soit rendu au fond.
Puis pour ce qui est des pêcheurs, là, ils peuvent se préparer comment là, à leur première pêche? Là? Ils peuvent travailler sur leur canne à pêche, peuvent travailler sur leur cuillère.
Aussi fou que ça puisse avoir l'air, révision du matériel de pêche. Je vais prendre mon moulinet, première des choses, avec ma canne, tester mon monofilament vraiment avec les mains, là, voir s'il est encore bon, s'il est tout déshydraté pour ne pas manquer cette première truite-là. Si ta canne à pêche a été serrée avec un émerillon ou encore un hameçon sur le bout, coupe ce fil-là, refais ton nœud, il est plus bon, c'est sûr et certain. On va vérifier si le moulinet, si ça mouline encore bien, si ça fonctionne encore bien. ouvrir le coffre à pêche, voir si l'humidité n'a pas pogné là-dedans pendant l'hiver, puis c'est pas tout rouillé à grandeur, parce que la rouille, c'est un des plus gros répulsifs à poissons.
Ou tu l'entreposes. T'sais, moi, je suis pas un grand pêcheur, puis j'ai encore moins un grand chasseur, mais j'ai tendance à mettre toutes mes affaires dans les cabanons. Là. Ça, ouais, c'est-tu le pire endroit?
Oui.
Oui, hein, c'est ça.
Le pêcheur moyen, la grosseur de coffre à pêche que vous avez, là, c'est la tablette du haut d'un garde-robe de maison. C'est aussi simple que ça.
Faut que madame accepte.
Hein?
Faut que madame accepte là, d'avoir un casier à pêche directement dans son garde-robe. Là.
Tu lèves les souliers, tu le mets dans le bas, puis tu remets les souliers juste dessus. C'est réglé. C'est réglé. Mais...
c'est réglé.
Il devrait avoir des souliers là-dedans. C'est une valeur, ouais, il y a des souliers. Hein,
mais ne jamais mettre ça dans le cabanon comme 90% des gens qui nous écoutent font.
Ben écoute, plus on évolue, plus on avance, plus les métaux, la densité sectorielle des métaux est élevée, donc moins ça rouille facilement. Le métal est moins poreux dans nos accessoires de pêche. Mais ça reste que tu es dans un milieu qui est humide, frais, qui va condenser mais que ça réchauffe. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce serait comme de dire de laisser ces cannes à pêche dans... Ah, je suis sur ça dans le grenier. À température que ça monte dans un grenier, là, ton fibre de carbone est fini, ton monofilament il est fini, tout est fini là-dedans. Première chose que tu vas savoir, mais que tu essaies de faire un poisson, c'est que ça va tout péter.
OK. On a le plaisir ce soir d'être avec Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Je vous l'avais mentionné qu'on allait aborder la C21. Il nous reste à peu près 7 minutes, Martin, là, pour parler de la C21 puis de ton prochain événement que tu vas faire dans le secteur de Val-Bélair. Où est-ce qu'on en est rendu actuellement pour ce qui est de la C21? Puis juste avant, nous faire un petit résumé de pourquoi c'est si important pour les propriétaires d'armes à feu, la C21.
Oui, bien, écoute. Mise en place dans le but de protéger les rues du Canada contre la criminalité armée, avec évidemment un chemin de criminalité qui a été identifié et qu'on connaît. La C-21 a été mise en place en mai 2020. De là, on est arrivé qu'à avoir des amendements presque aussi gros que la loi, un petit peu plus qu'un an après, pour venir corriger les lacunes qu'on reconnaissait dans la loi, qui étaient les amendements G4 et G46 qui ont fait énormément réagir les chasseurs. Savoir qu'au début, c'était que les tireurs sportifs qui réagissaient parce qu'on a banni les AR-15 et les variants et on a banni les armes de poing. Mais là, dans G4 et G46, on attaquait pour une première fois les chasseurs. Ils se sont évidemment exprimés énormément, tellement que c'est devenu très brûlant dans les mains des libéraux. Donc, on a éventuellement abandonné les amendements G4 et G46 qui ciblaient les armes des chasseurs. Puis, on a abandonné les listes qui détaillaient les différentes armes des chasseurs. Et là, on vient de réintroduire une nouvelle définition. Une nouvelle définition qui était attendue par Mendicino. Ça a été livré, si je ne me trompe pas, c'est mardi après-midi, lundi après-midi. Mardi après-midi de la semaine dernière, qui définit ce qui va être prohibé. Hein, parce que là, évidemment, les anti et les pros se sont énormément battus sur un débat qui est totalement à l'extérieur du point de vue de sécurité qu'on voulait mettre en place avec la C-21 pour déterminer comment on allait légiférer sur les armes légales détenues par des propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada. Alors qu'on sait que la criminalité provient d'un chemin criminalisé, hein, et non pas de ce côté-là. Alors, on a fini quand même par continuer dans ce sens-là et pondre une définition qui est exactement ou presque exactement la même qu'il y avait en G4 ou en G46, mais qui ciblait l'utilisateur. Donc, quand on avait les amendements, ça ciblait les armes que, si par exemple Yannick, tu es un chasseur, ça ciblait les armes que tu avais chez toi. On disait que toute arme, mécanisme semi-automatique, percussion centrale, à chargeur de 5 munitions, détachable de 5 munitions et plus, ça devenait illégal entre tes mains, plus une certaine liste. Ça, on a tout abandonné ça. On a refait une définition. La nouvelle définition, elle, ne cible pas l'utilisateur, elle cible le manufacturier. Donc, à la place de contrôler l'acquisition, on contrôle la mise en marché. Et la définition est toute arme semi-automatique à percussion centrale ayant été conçue à son origine pour accepter un chargeur détachable de 6 munitions ou plus. Il y a deux grandes choses importantes à comprendre là-dedans. Première des choses, les chasseurs ont levé les bras, faire comme « Hooray, c'est réglé, c'est gagné ». Non, ce qu'ils viennent de vous donner, c'est un droit de grand-père. Ce que vous avez entre les mains, vous pouvez le conserver, mais vous ne pourrez plus en acheter une nouvelle. That's it. Parce que dans la définition que le gouvernement donne, conçue à son origine, ça veut dire que les plans initiaux des armes à feu, hein, le white paper, avant même le blueprint pour aller en usine, comme un brevet, n'importe quelle arme à feu a été décrite avec le maximum de choses qu'elle pourrait accepter dans le futur. Fait que toutes les armes à feu ont été décrites au départ comme pouvant accepter des chargeurs supérieurs à 6, 10, 12, 15 cartouches dans le white paper, même s'ils ne le font pas dans la vie tous les jours. Et en réponse courriel, l'attaché de presse de Mendicino me répond à moi, effectivement, si ça a été décrit comme ça au départ, peu importe que ce soit au Canada ou dans un autre pays qu'elle soit mise en marché ou détaillée avec un chargeur supérieur à 5 ou 6 munitions dans ce cas-ci, puisqu'on l'a réajusté à 6 munitions, pour nous, ça devient une arme illégale. Fait que figurez-vous qu'avec ça et la porte ouverte qui se sont laissées, parce que dans la définition, on dit, on se réserve le droit de réobserver en communauté cette définition-là pour l'adapter à de futurs marchés. Donc, il y a une définition evergreen là-dedans. On peut la voir comme ça, une définition qu'on va pouvoir réinitialiser comme on le veut. Alors, qu'on le regarde de la façon dont on le voudra, ça donne la possibilité aux libéraux de rendre prohibé l'ensemble des armes semi-automatiques qui sont distribuées au Canada, que ce soit des carabines ou des fusils. Donc, ce que vous avez en main présentement, comptez-vous chanceux, ça, c'est plus touché, sauf que vous ne pourrez plus en acquérir de nouvelles. Okay. That's it.
Donc, là, une clause grand-père.
C'est une clause grand-père, mais ce qui est plus triste là-dedans, c'est qu'on soit encore en train de parler de ça, moi et toi. Parce qu'on ne devrait pas être en train de parler de ça. Cette loi-là a été mise en place pour protéger le Canadien contre la criminalité armée. On devrait être en train de parler des moyens que les libéraux ont mis en place pour contrer la criminalité armée. Puis ce qui, moi, vient me chercher encore plus, c'est qu'à la sortie de cette nouvelle-là, de la nouvelle définition, les groupes polis, la mosquée, etc., sont outrés que le gouvernement n'ait pas fait plus que ça envers les propriétaires légitimes d'armes à feu pour protéger le Canada. Quand encore une fois, on connaît les médecins légistes, les chaires de recherche nationales sont toutes venues dire en CQ meeting au Parlement à Ottawa d'où provenait la criminalité. Et dans ce projet de loi-là, là, on ne devrait pas être en train de parler de ça, moi et toi, parce qu'on devrait être en train de regarder quelles options ils ont mis dans le projet de loi pour protéger les rues du chemin criminel qu'empruntent les armes pour venir commettre des méfaits. Puis la réponse, là, c'est aucun. Il n'y a aucun moyen qui a été mis. Même qu'en parallèle de ça, on est arrivé des lois comme C5 puis qui donnent accès aux peines minimales dans le cas de crime par arme à feu par une minorité ethnique ou des Premières Nations pour en éviter la surreprésentation en milieu carcéral. Puis on a allégé les conditions de remise en libération sous caution des criminels récidivistes, bien que 40% des récidives aujourd'hui sont faites par des gens qui sont libérés plus tôt que prévu. On a 36% d'augmentation dans les crimes violents au Canada, 96% d'augmentation dans les crimes commis par les gangs de rue depuis la mise en place de tout ça. Souvenez-vous qu'au départ, c'était pour protéger les rues. La raison pour laquelle les propriétaires d'armes à feu crient, ce n'est pas parce qu'on veut venir toucher à nos armes, c'est parce qu'on s'attend à avoir des vrais moyens pour protéger les rues. Donc, les chemins criminels qu'emploient les armes à feu qui commettent les méfaits.
Exact. Mais intervenir, avoir des plus gros budgets pour intervenir dans des réserves où on suspecte... Je pense qu'on suspecte pas. On sait que c'est là où les armes transitent, donc des États-Unis vers le Canada, qu'un politicien dise qu'il va avoir plus de bateaux, il va avoir plus de surveillance autour de ces territoires-là, parce que s'il y a des armes à feu légales qui passent par là, ben, on veut les intercepter rapidement. Ça aurait de l'air extrêmement raciste, puis ça aurait été de la répression envers les Premières Nations. Si on te sait bien, hein?
De toute façon, ce débat-là n'est pas un débat qui se gagne avec des faits, des analyses.
Non, c'est un débat politique.
Des études. C'est carrément une guerre idéologique. Ce ne sont pas des vies qu'on protège. Ce ne sont pas des principes de vie, des principes de sécurité qu'on protège ici. On protège une votation. Si tu remarques, on est pour arriver... Je ne veux pas me faire prophète de malheur, là. J'aimerais que ça arrive. On rentre en élection au printemps. Puis là, le bastion des chasseurs s'est levé haut et fort puis rentré dans les libéraux à côté. Puis là, même les journalistes commençaient à, tranquillement, pas vite, virer leur capot de bord. Fait comme tabarouette, ils ont raison, les chasseurs. Là. Ils sont pas inclus dans la criminalité. Ça commençait à être tellement brûlant qu'à la vue des élections qui s'en venaient, on a comme, d'une claque, là, on recule d'un pas. Puis là, c'est beau, on annule ça. On vous laisse aller, les chasseurs. Puis on refait un verbatim pour aller les chercher d'une façon différente dont ils s'en rendent compte. On vient de protéger le vote encore. C'est tout. C'est une guerre idéologique. Ça ne se gagne pas avec de la logique parce qu'il n'y en a pas de logique là-dedans. C'est idéologique. Ça vise des votes. Le bon gouvernement vous a protégé des méchantes armes à feu qui, en fait, n'ont jamais tué personne.
Martin Bourget, amusons-nous un peu puisque dans les prochaines semaines, tu auras un événement dans le secteur de Val-Bella. Ça va être au XP Val-Bella, c'est ça?
EXP Microbrasseur. C'est une nouvelle microbrasserie dans le coin là-bas. Puis, tu sais, dans les années passées, on faisait un événement Godbrousse, un événement Filles de bois, fait que les gars chialaient qu'ils voyaient pas les filles. Là, on a décidé de faire un événement mix. Le 27 mai, on se rencontre toutes là-bas En quelque part dans le souper, là, en quelque part en après-midi, on va faire un live à partir de là-bas. Fin d'après-midi, on va se pointer là. Venez nous voir, venez participer, venez goûter aux produits là-bas en même temps. Mais surtout pour se rassembler et se voir toute la gang, les filles de bois puis les gars de brousse. Avec les gars de brousse, vous allez être contents. Vous allez arrêter de nous scier les oreilles, les filles vont être là.
Ah ben, c'est une bonne technique, ça. Si tu veux qu'il y ait des gars à ton événement, invite des filles. Ce sera le 27 mai, ça va être à partir de quelle heure, hein?
Ben, nous autres, on va arriver dans le coin d'à peu près 14h. 14-15h, on va déjà être sur place. Fait que à partir de là, vous pouvez venir profiter de la terrasse, prendre une petite bière. Ça a l'air que les nachos sont écœurants là-bas, fait que vous vous ennuierez pas.
Martin Bourget, pour les gens qui veulent te suivre chez Aventure Chasse-Pêche, peuvent le faire de quelle façon?
Tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag. On est rendu sur Carbon TV aussi, en même temps sur YouTube et sur Facebook. On fait notre entrée chez Sportsman Channel et sur Zone 300 à la grandeur du monde dans la francophonie aussi. Donc, Zone 300, vous allez nous trouver. Sinon, le magazine sort aux 3 mois. Venez nous voir. Toutes les semaines, on fait des lives. Punchez-nous sur Facebook, là. Vous allez nous trouver très facilement.
Ça ne cesse de progresser depuis que tu es en place puis depuis que tu y mets tout ton cœur avec toi et ta merveilleuse conjointe, qui est beaucoup plus merveilleuse que toi, soit dit en passant.
Ben, j'ai toujours dit, hein, ça se divise en deux. Elle a le 800, moi j'ai le 60. Elle a le 860, moi j'ai le 9000 téléspectateurs. Pour 869 000 téléspectateurs. Je l'ai compris.
Oui, c'est ça. Mais c'est toujours un plaisir de parler. Je me dis, un jour, j'aurais pu moyen de parler à ce gars-là. Ça va être une vedette internationale.
T'auras le droit de me virer une claque en arrière de la tête.
Salut!
Salut, mon ami.
Bye-bye, merci.
Marceau, le soir.
La folie du printemps s'empare de Mathieu Performance. Des milliers de vélos en inventaire dans toutes les catégories. Électriques, route, montagne, enfants et bien plus. Plus de 550 modèles différents en exposition. Ton vélo drive, on l'a en inventaire. MathieuPerformance.com, 496 1ère Avenue, Limoilou.
Êtes-vous prêt pour le chapitre final de...
Pas encore.
Les gardiens de la galaxie.
Pas encore.
Êtes-vous vraiment, vraiment prêt?
C'est bon, allez-y!
Vendredi.
On n'est pas des héros, on est les gardiens de la galaxie.
The Marvel Studios, les gardiens de la galaxie volume 3. Billets disponibles dès maintenant.
Vous connaissez certainement les suppléments Génacol pour la santé articulaire, mais connaissez-vous le nouveau Génacol Action Rapide? Avec un tout nouveau mode d'action, ce produit naturel procure des effets analgésiques pour soulager temporairement les douleurs musculo-squelettiques. Génacol Action Rapide réduit en seulement 3 heures l'intensité de vos douleurs musculaires et articulaires. Essayez-le, il est disponible chez Axe Pharma de Walmart. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Saviez-vous qu'il est encore temps de vous inscrire à l'Université Laval pour la session d'automne? En effet, plusieurs programmes d'études sont toujours ouverts à l'admission. Profitez-en et bénéficiez du plus grand choix possible en visitant sans tarder ulaval.ca/admission-tardive pour trouver le programme qui vous convient. L'admission à la session d'automne se poursuit. Déposez votre demande et soyez des nôtres pour la rentrée. Visitez ulaval.ca/admission-tardive.
Le mercredi 10 mai, c'est le grand McDo. Chaque achat fait chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles. Ça veut dire que vous êtes à un Big Mac près d'être un héros.
OK, mais si je prends un trio quart d'olive?
T'es un héros.
Un McFlurry?
Héros.
Une poutine?
Héroïne.
Un petit café en lisant le journal?
Héros!
Si je prends juste une McCraquette?
Techniquement impossible, mais...
Héros!
Soyez un héros. Joignez-vous à nous lors du Grand McDo le mercredi 10 mai. Détails dans les McDo participants.
Offrez du plaisir à une maman avec la promo Fête des mères des boutiques érotiques au 7e ciel. Achetez un Womanizer Duo en spécial à 200$ et obtenez les boules chinoises vibrantes Liluna d'une valeur de 100$ gratuitement. 911 Charest Ouest, Marché Jean Talon et au 7e ciel.com.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
BLVD.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous pour ce soir. Ça a été un plaisir durant les 60 dernières minutes d'être en votre compagnie et celle de Martin Bourget de Groupe Aventure Chasse-Pêche. Donc, tapez ça, le Groupe Aventure Chasse-Pêche, pour ceux qui aimeraient aller faire un petit voyage organisé en Afrique, si vous êtes un chasseur ou encore si vous êtes un photographe. Là. Photographe, je pense, pour une semaine, c'est autour de 3 000 $. Si vous êtes un chasseur, c'est autour de 4 200 $ à peu près. C'est tout un deal, une semaine en Afrique. Je vous dirais que pour le mois de mai, pas de cette année bien entendu, mais le mois de mai prochain, en 2024, ben, je vais peut-être me joindre au groupe, là, mais je sais qu'il restait quelques places encore, mais à ce prix-là, on a, faut faire des efforts. Là. On n'a pas le choix, je vais y aller, je pense que je vais y aller, puis par la suite, ben, je vous en reparlerai. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de ce soir, ça a été un plaisir. C'est autour de 7 degrés, je vais juste faire un petit refresh de ma page d'Environnement Canada. Non, c'est ça, c'est autour de 4 degrés qu'on a présentement pour ce qui est de ce soir. Demain, jeudi, ce sera encore une fois de la pluie, tout comme ce soir. Même cette nuit, maximum de 12 pour ce qui est de demain. Vendredi, ben là, c'est le retour du soleil pour quelques jours, d'après ce que je peux comprendre. Là. Donc, vendredi ensoleillé, maximum de 16. Samedi ensoleillé, maximum de 21. Dimanche ensoleillé, maximum de 19. Et lundi, alternance de soleil-nuage avec un maximum de 19. Donc, 4-5 beaux jours là, qu'on a devant nous qui va faire en sorte que on va oublier les petites journées de merde qu'on a connu dans les derniers jours. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se rejase demain sans faute à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Salut!
Marceau le soir. Le soir.
Condo LB9 vous invite à ses portes ouvertes le 20 mai de 10h à 16h. Unité studio, condo et penthouse, salle d'entraînement, piscine chauffée, terrasse extérieure et vue sur la ville. À la signature d'un bail d'un an, obtenez un mois gratuit. Condo avec un S, lb9.ca.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message Radio Air France. Vous rêvez d'une destination inoubliable qui mêle culture, architecture, romantisme avec une douce saveur de macaron ? Avec Air France, Paris et toutes ses merveilles n'ont jamais été aussi proches. Dès aujourd'hui, profitez de la nouvelle liaison avec 3 vols directs par semaine vers Paris, au départ de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Et avec Air France, prolongez votre voyage vers les plus belles destinations européennes. S'envoler en toute élégance. Air France. Plus d'informations sur airfrance.ca.
Pourquoi les séries sont meilleures chez Boston Pizza? Parce qu'on a optimisé l'expérience dans notre bar sportif grâce à nos recherches en fanalytique. On a misé sur nos côtes style LVP qui ont un ratio boucher-trempette impressionnant et sur les cornichons frits. Le choix unanime au repêchage avec une moyenne de 6 cornichons par assiette. Sans oublier la championne des stats avancées, la nouvelle bière Moza qui marque le plus de pintes par match. Regardez les séries et savourez notre menu des séries seulement chez Boston Pizza. Propulsé par la fanalytique.
Boulevard 102, la radio de toutes, tout le monde, tout le temps.
Pour célébrer l'ajout de l'hôtel atypique dans la famille Leclerc Communication, profitez d'une offre de lancement exclusive aux auditeurs de Boulevard 102.1. Jusqu'au 31 mai, obtenez un rabais de 50% sur les nuitées en semaine et de 30% la fin de semaine avec le code promotionnel BLVD 2023. L'offre parfaite pour redécouvrir le vieux Québec le temps d'une soirée ou pour vos proches en visite. L'Atypique propose un concept unique en Amérique du Nord, alliant confort et modernité dans un cadre convivial et minimaliste. Réservé au atypiquehotel.com.
Le soleil, enfin! Prêt à profiter du beau temps ensoleillé? Iris a ce qu'il vous faut. Protégez vos yeux avec style. Jusqu'au 11 juin, profitez de 25% de rabais sur les lunettes de soleil sans prescription. Découvrez les dernières tendances de designer par Dior, Tom Ford, Gucci, Ray-Ban et bien d'autres. Venez nous visiter. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr. Jal Saint-Jacques, optométriste.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
BLVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Bien contente d'être avec vous en ce début de soirée. 19h, c'est-tu le début de la soirée? Ben ouais, ça compte. Hein, on n'est pas encore loin de minuit, toujours bien. Salut! Mon nom est Élodie Derry, bienvenue dans le rappel d'Elo. Donc, c'est pour une heure qu'on va partager un peu de temps ensemble. Ma mission, ben, c'est de vous jouer de la bonne musique, de vous accompagner à travers votre soirée en ce mercredi. On va commencer avec une séquence rock, comme à l'habitude, vous allez entendre dans les prochaines minutes du Rise Against du Weezer. Et on va commencer la séquence avec la musique de Staind, la chanson It's Been a While. Ça faisait un bout, en effet, qu'on avait entendu du nouveau Staind et il y a un premier extrait en 12 ans qui est sorti tout récemment. Peut-être que vous l'avez manqué. La chanson s'appelle The Lowest in Me. Des fans à l'époque de Staind, ben certainement vous allez aimer ce qui s'en vient. L'album Confessions of the Fallen, ça fait penser aussi là, dans la musique un petit peu plus récente à ce que Three Days Grace fait. Alors, des bons refrains très accrocheurs, des riffs de guitare très très lourds, le mainstream rock à son meilleur. Et on va commencer avec une douceur de Staind, comme je vous l'avais dit, la chanson It's Been a While. Je vous l'avais promis et on l'écoute à Boulevard 102 pour commencer notre soirée dans le rappel des loups.
It's been a while since I could hold my head up high. And it's been a while since I first saw you. And it's been a while since I can stand on my own two feet again. And it's been a while since I could call you.
The best it could. 102.1.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life.
Sans pub. Dairy Queen vous accompagne avec 102 minutes de rock sans pub.
J'ai profité du moment pour faire une petite plug. Il y a une entrevue qu'on a faite dans Marceau le midi aujourd'hui que j'ai adoré, puis je pense que ça peut toucher pas mal de monde si c'est pas tout le monde. Entrevue sur les allergies. Je sais pas si, comme moi, ces temps-ci, vous avez le petit nez qui renifle un petit peu plus, là. Ben ça a l'air que c'est le pollen de bouleau, toi chose. Et on est plusieurs à avoir des allergies, que ce soit de façon saisonnière ou encore des allergies aux piqûres d'insectes ou encore des allergies alimentaires. On a rapatrié toutes nos questions. On a même pris les questions des auditeurs et on les a posées à une allergologue, la docteure Vanessa Gadouri-Lévesque, qui était invitée à l'émission ce midi dans Marceau le midi. Et elle a pris le temps de répondre à toutes nos questions avec tellement de clarté. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, vous allez sûrement y trouver des réponses dans cet extrait qui est désormais disponible sur le blvd.fm ou encore sur notre application gratuite Boulevard 102.1.
Je vous rappelle que l'application, là, c'est disponible sur votre téléphone à